Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous proposer une émission dans laquelle nous allons vous faire part de nos coups de cœur littéraires. Je suis en compagnie de Sandrine et de Blaise ce matin. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour Juliana. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour faire une émission ensemble, pour parler. Chacune a choisi un livre un peu coup de cœur. Alors, peut-être récent, peut-être moins récent, mais on va faire un petit tour de table pour savoir de quel livre il s'agit pour toi, Sandrine.
Eh bien, écoute, Juliana, il s'agit du livre « Souvenirs de la marée basse » de l'écrivaine Chantal Thomas, que j'aime beaucoup en tant qu'écrivaine, en tant que personne. C'est un livre qui n'est pas récent, il date de 2017, mais comme il est en poche, je trouve que c'est l'occasion. Et puis après tout, n'est-ce pas l'été qui arrive ?
Alors, ah oui,
souvenirs de la marée basse.
C'est très beau. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai lu également et que j'adore. Il est vraiment très, très beau. On va rentrer dans le détail dans un instant. Et toi, Blaise, alors, quel va être ton conseil du jour aujourd'hui ?
Ben moi, je vais parler d'un livre. Ça s'appelle Le journal de Gertie. Le titre, c'est Le marron à gogo. C'est un journal de jeunesse que je trouve génial.
Voilà, donc c'est un livre, un roman de littérature jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de l'auteur ?
Bertrand Saint-Igny.
Le journal de Gertie, en plus, ça existe en plusieurs tomes. Donc oui. Toi, tu as choisi celui-là qui s'appelle donc Marron à gogo, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Parce qu'il se passe peut-être dans une saison particulière ?
Oui, c'est en automne.
Et c'est des livres de littérature jeunesse plutôt pour quel âge ?
Bah, moi, je le conseille pour les 10-11 ans, ça peut convenir. Hein, mais pour les 8-9 ans, aussi pour les bons lecteurs.
Ah, formidable. Et pour ma part, je vais parler du livre de Adèle Van Hitt. Elle a écrit un livre qui s'appelle Inconsolable, qui est paru aux éditions Gallimard. Le protagoniste principal de ce livre, qui est le papa donc, de l'autrice, qui était très malade à l'hôpital. Et là, Adèle, elle parle avec beaucoup de finesse de qu'est-ce que c'est en fait le deuil pour elle, de comment on peut se retrouver comme ça dans cet état d'être inconsolable lorsqu'on perd quelqu'un. Donc on va voir comment commencer à parler de tout ça. Qui c'est qui a envie de se jeter à l'eau et de démarrer ?
Moi, je suis pas contre, mais c'est pas parce que je suis un enfant que je vais commencer, alors peut-être les autres.
Non, c'est bon, on te donne la parole, tu peux y aller.
D'accord. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler du coup du journal de Gertie. Je l'aime beaucoup et ça parle d'une chienne qui s'appelle Gertie et elle va vivre plein d'aventures en automne.
Ok, c'est la saison d'automne.
Oui, et elle a une amie qui se nomme Fleur.
C'est une chienne également ?
Oui, et Fleur, elle est un peu particulière parce qu'elle croit tout ce qu'on lui dit et elle a un accent un peu bizarre.
Ah !
Par exemple, au lieu de dire oui, elle dit oui.
Ah, il y a une différence.
Oui.
J'adore. Ok, on t'écoute.
Et donc, les deux chiennes, elles vont vivre plein d'aventures ensemble. Et par contre, Gertie, donc la chienne principale, elle a un ennemi juré, c'est Tête de Fesse. C'est un chat qui raconte que du pipeau, mais dans le livre, il dit Fireball. Et voilà, il raconte plein de mensonges à Fleur parce qu'il sait qu'elle croit tout ce qu'on lui dit.
Fleur, c'est la petite chienne un petit peu fragile qui croit à tout ce qu'on lui raconte. Et Gertie est là, un peu fâchée de cette situation. Le chat abuse un peu, quoi.
Oui, oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que t'as plu vraiment dans ce livre ?
Bah moi, j'ai bien aimé parce que en fait, c'est plus un roman d'aventure et d'humour. Et il y a des passages où j'ai un peu rigolé quand même.
Oui.
Et je les trouvais courageuses les deux. Et puis, surtout Gertie, elle n'avait pas froid aux yeux.
Ok. Et d'ailleurs, parmi ces passages qui peuvent être un peu emblématiques dans le livre, est-ce que tu nous as choisi un pour lire ?
Bah oui, ça s'appelle le monstre. Oui, c'est normal le titre. Hein. Le monstre Bachivalik.
Super, si tu veux partager avec nous un bout de lecture pour qu'on découvre le livre.
Oui, c'est à la page 39.
Ok, vas-y.
Pour fêter l'automne, Pépé Narbier a sculpté une tête de monstre dans une citrouille. Non seulement cette tête était hideuse, mais le pire, c'est que Pépé Narbier l'a fièrement déposée devant sa porte. Non mais quelle idée ! Je me demande bien à quoi ça sert de fabriquer des trucs horribles. Personnellement, si je savais sculpter, je ferais plutôt des œuvres artistiques, agréables à contempler, genre statue de poulet, rat ou saucisse. Avec Fleur, on avait beau savoir que c'était une fausse tête, elle nous fichait quand même rudement la frousse, surtout à Fleur. Du coup, bravo, c'est malin, ma copine n'osait plus franchir la porte de sa porte. Le pas de sa porte-pomme. Moralité, la nuit dernière, elle a dormi dans le jardin et ce matin, elle avait le nez qui coulait. À cause de cette citrouille, j'ai chopé un rhume, elle a soupiré. À quoi ? J'ai demandé. Un rhume ! Un rhume ? J'ai pas dit un rhume, elle a répondu. J'ai dit un rhume. Tu te moques de moi ? J'ai demandé. Alors on a commencé à se disputer, jusqu'à ce que je comprenne que Fleur avait le nez bouché et que ça l'empêchait de prononcer toutes les lettres. Ensuite, j'ai proposé à Fleur de lui fournir un soutien psychologique afin de l'aider à franchir le seuil de sa maison. J'y arriverai pas. Elle a piaillé en grelottant des fesses. Tu ne vas quand même pas passer tes nuits dehors à cause d'un légume à la noix, j'ai dit. Et pour lui montrer que la citrouille était inoffensive, je me suis approchée de la porte d'un air décontracté. Tu vois, je m'approche, et le légume ne bouge pas. Soudain, le légume a bougé. Ah ! J'ai fait. La citrouille s'est mise à ricaner avec une voix de diable. Ha ha ha, je mangerai bien du chien ce soir.
C'est pas mal.
Sachez que c'est pas la fin du chapitre, hein. Je laisserai juste découvrir pour ceux qui liront le livre.
Bah oui, c'est bien, on va pas spoiler le livre non plus, quoi. Voilà, on rigole pas mal quand on lit les histoires de Gertie. Merci beaucoup. Ce chien, par contre, on sait pas quelle est la race, finalement.
Eh bien, non, parce que dans le livre, déjà, ça le dit pas. Mmh. Mmh. Aucun moment dans le chapitre, on dit la race de la chienne. Mais même à la fin, on voit par contre une image d'elle, mais en vrai. Mais ça dit juste que tout ce qu'on lit, c'est vrai. Mmh. Ce sont des histoires vraies. Moi, personnellement, quand j'ai lu que c'était tout ce qu'on lisait, c'était vrai, je me suis dit comment l'écrivain peut savoir que les chiens parlaient comme ça et tout ça. Enfin, je me disais, c'est un peu bizarre. Mais...
Ah, ça, c'est la magie de l'imaginaire, oui. N'est-ce pas, de la littérature, c'est ça qui est chouette.
D'ailleurs, le maître de Gertie, dans le livre, il s'appelle Gaspard.
Waouh, ça nous apprend un truc, là.
Oui.
Merci beaucoup de cette précision.
Sortir.
vous êtes sur Canal B, nous sommes ensemble avec Sandrine et Blaise. On est en train de parler des livres qui nous ont touchés pour lire à la plage, pour être au parc, dans les forêts ou chez vous tout simplement.
Absolument. Très bonne idée.
Très bonne idée, Blaise. Toi, Blaise, tu nous as parlé tout à l'heure du livre de Goethe.
Oui, exactement.
Les marrons à gogo, c'est ça
Oui, c'est ça.
Donc, tu anticipes, en fait, l'arrivée à l'automne.
On peut dire ça, mais on n'est même pas encore en été. Donc,
c'est cela. Et toi, Sandrine?
Alors, l'ouvrage dont je souhaite parler, c'est « Souvenirs de la marée basse » de Chantal Thomas. Et justement, sur la plage, moi, je vous propose Chantal Thomas. Pourquoi? C'est un ouvrage... que j'ai un peu du mal à définir et à résumer, parce qu'avant tout, c'est un livre de sensations, un livre d'émotions, un livre qui nous dit les choses. Et j'aime évidemment cette appellation du mot mer, M-E-R, auquel on peut rajouter un E, sans être lacanienne, mais simplement en disant que voilà, c'est un ouvrage qui parle de la marée basse, de la marée haute, des zones que nous pouvons traverser, des zones d'obscurité et des zones d'amour, notamment l'histoire de Chantal avec sa maman, Chantal Thomas, avec sa maman Jackie.
Jackie,
voilà, sa maman, qui nous fait, donc Chantal Thomas, l'écrivaine, nous fait rentrer, pénétrer dans cet univers émotionnel de cette relation avec sa maman, et puis plus particulièrement de la liberté que lui donne sa maman, qui paraissait peut-être être un peu aux antipodes de ça. Et lorsqu'elle a découvert à quel point sa maman était libre, à travers notamment quoi donc, cette sensation, cette possibilité de nager, de quitter un peu tous les univers, l'univers du carcan d'un siècle qui est plus... peut-être un peu plus stricte, en tout cas sur certains aspects que le nôtre. Et voilà, elle nous montre à quel point sa maman était libre dans cette possibilité de nager. Mmh. En quoi la nage, en quoi le fait d'un seul coup de déposer ses vêtements, et notamment, tenez-vous bien, à Versailles, au Grand Canal.
À Versailles
Exactement. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de gardien comme aujourd'hui, il n'y avait pas toute cette surveillance. Et puis, d'un seul coup, une femme très chic enlève ses vêtements très rapidement. Et simplement parce qu'elle a chaud, elle va dans le Grand Canal et elle nage. Qu'est-ce que ça dit de la liberté? De la liberté des femmes à cette époque, de la liberté de Jackie, donc la maman de Chantal, et en quoi ensuite elle lui transmet après ce lien de liberté et que Chantal nous transmet à nous, toutes les femmes.
Elle nous prend par la main, elle nous amène avec elle dans l'eau.
Absolument. Elle nous amène dans l'eau, c'est tout à fait ça. Elle nous amène en quoi les sensations, les émotions, le ressenti, être dans l'instant présent, comme j'aime à le dire, l'instant vivant. Qu'est-ce que ça nous apporte, simplement, de nager, d'être vraiment dans ce mouvement de fluide, de fluidité. J'aurais envie de dire aussi de manière très simple que ça nous ramène un peu à notre condition de nouveau-né ou pas encore né, de cet instant où on est dans le liquide amniotique.
Oui, magnifique.
Dans quelque chose, voilà.
Qui est-ce que tu te souviens, toi, Blaise, du moment où tu étais dans le liquide amniotique?
Moi, je crois qu'on n'avait pas encore de mémoire.
Oui, on perd tous plus ou moins déjà la mémoire de cette chose, cette sensation, je pense.
Mais c'est dans le cœur que ça reste.
Oui, certainement, c'est beau ce que tu viens de dire.
C'est très beau, c'est exactement ça. Ça reste en nous, ça nous donne comme une forme d'empreinte, de trace, quelque chose à... Et l'écriture de Chantal Thomas que j'aime tant, justement, c'est l'écriture pour moi de la sensation. Elle est extrêmement élégante, sensible. Elle nous accompagne, comme tu le disais très bien, Julien, elle nous accompagne à aller dans la mer et encore plus à aller dans ce qui est intrinsèque, dans l'intérieur de nous-mêmes, pour aller à la rencontre à travers ce récit de cette écrivaine pour sa maman, qu'elle a découvert un jour. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau, ce passage. Elle retrouve sa maman très âgée et en la voyant, elle se met à l'aimer entièrement. Entièrement, dans sa vulnérabilité et dans cette compréhension qu'elle a de la liberté. Et c'est extraordinaire. Merci tellement, Chantal Thomas, de m'avoir amenée vers ce courant de marée haute, de marée basse.
D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. L'élément de l'eau, c'est un peu l'élément le plus proche des humains.
Ah oui, quand on sait de quoi on est constitué, exactement. Oui. On est constitué de beaucoup d'eau, comme la terre, que nous devrions d'ailleurs appeler la mer. Il y a plus d'eau que de surface terrestre, si je puis dire, en tout cas de continent ou autre. Voilà. Oui.
Nous sommes en train de traverser comme ça quelque chose de transcendant, là, les filles. Cette émission commence à planer complètement. Mais pour ce faire, d'ailleurs, pour continuer dans une atmosphère agréable et autour de ce livre, est-ce que, Sandrine, tu veux bien partager avec nous une lecture un moment du livre.
Oui, avec grand plaisir. Alors là, on est à la page 119. Ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'évidemment, il y a un titre dans chaque chapitre. Et celui-ci, tenez-vous bien, ça s'appelle « Perdre pied ».
Perdre pied ?
Perdre pied.
Oh là là.
Au club, il y a des garçons qui entrent dans la mer en marchant sur les mains. Ils vont en équilibre sur leurs bras, s'enfoncent dans l'eau aussi longtemps qu'ils ont assez de souffle. Moi, parfois, il m'arrive d'entrer dans l'eau en faisant la roue. Trimalco m'a appris beaucoup de choses. Désormais, je sais nager. Selon des critères objectifs, j'ai dépassé, dit-on, le stade des mouvements désordonnés du chien qui nage. Je ne peux faire que quelques mètres en crawl, pas davantage. En revanche, ma brasse est parfaite. Elle me mènera où je veux, et je le sens, sur de longues distances, et même dans des mers étrangères. Mais ce n'est pas en longeant le rivage que je désire aller loin. Faire des longueurs ne me tente pas. Mon plaisir à me sentir sûr de moi se manifeste précisément dans ce passage entre l'instant où l'on a encore pied, où l'on peut toujours s'arrêter de nager et s'en remettre au sol stable de la terre et celui où le fond nous échappe. C'est à partir de là, à partir de cette indifférence ou sérénité égale, à flotter au-dessus d'un mètre de haut ou au-dessus d'abîmes, que s'éprouve la véritable souveraineté de nageur, que l'on jouit entièrement de cette autre manière d'exister, dans l'abandon, la déprise. J'ai appris à perdre pied. Allez, je m'arrête là. Est-ce que tu as vu qu'on a parlé de chien à un moment donné ?
Oui, oui, oui.
C'est très drôle, c'était pas prévu. J'adore ce genre de...
d'impromptu.
Ah, c'est vraiment génial.
Oui.
Et voilà, des mouvements désordonnés du chien qui nage. Effectivement, on a tous vu un chien qui nage et c'est très drôle. Et cet instinct qu'il peut avoir, voilà. Et ce passage me plaît d'autant plus parce que, évidemment, il s'appelle perdre pied. Qui n'a pas perdu pied au sens propre, au sens figuré dans la vie, dans la mer ? Et puis cette description... on est très proche de cette sensation qui nous fait ressentir, en tout cas pour ma part, comme si l'eau arrivait sur mes bras, sur mon corps, et se lâchait prise. Est-ce que c'est ça, perdre pied, lâcher prise ?
En fait, je me demandais, est-ce qu'il va arriver un malheur dans l'histoire à un moment ?
Alors, en fait, je ne vais pas non plus trop spoiler le livre. Il n'y a pas de malheur au sens... d'un seul coup, on ne va pas apprendre quelque chose de grave, si je puis dire. Après, il se passe évidemment plein de choses parce qu'on est dans un récit presque d'autofiction, d'autobiographie et évidemment romancé. Mais il se passe plein de choses, évidemment. Tu vois, si on parle de cette maman, on va parler de disparition. Oui. On va parler en quoi la disparition
touche
et nous fait ressentir des choses. Et en quoi, encore une fois, le fait de nager ou de s'approcher de l'eau, transmis par cette maman vers cet enfant, Chantal, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que de la filiation, de la liberté ? C'est vraiment un ouvrage de la liberté. Et ta question est très intéressante parce que, effectivement, est-ce que quelque chose de grave survient d'un coup et c'est grave, est-ce que c'est pas quelque chose de grave qui survient petit à petit qu'on laisse advenir ? C'est très intéressant comme question.
Et c'est la question qui va me donner l'occasion pour vous raconter L'Inconsolable d'Adèle Van Riet. Donc, je disais tout à l'heure, un livre qui est exactement comme tu dis, un récit autobiographique, romancé, et qui parle là, non pas de mère, mais de père. Mmh. Mais si vous me permettez, on va faire un intermède musical et après, ça sera mon petit coup de cœur.
Avec grand plaisir, Juliana.
Très bien.
Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Mostrado e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca. Afinal me dói no peito uma dor que não é pouca.
Deixa, deixa.
mostrado e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar a minha boca, afinal me dói no peito uma dor que não é boa.
L'émission Le Nombril de Vénus avec Sandrine, et Blaise, on a parlé du journal de Gurti avec Blaise, c'est le tome
marron à gogo.
Nous avons parlé aussi de Chantal Thomas avec Sandrine,
avec Souvenir de la marée basse,
magnifique livre. Et moi je vais vous parler d'Adèle Van Hitt qui a écrit Inconsolable, un livre paru donc cette année aux éditions Gallimard, qui parle du chagrin qu'elle a ressenti à la perte de son papa qui est tombé gravement malade. Donc la première partie du livre, c'est vrai, j'ai eu un peu de mal parce qu'elle est assez dure. Elle a vraiment écrit ce livre dans une temporalité, on va dire sur une année, partagée cette année en saisons. Alors, il faut savoir aussi que quand elle a écrit cette histoire, donc de la disparition de son papa, la période qu'elle était en hôpital, sa mort et puis tout ce deuil qui l'a rendu inconsolable, qui l'a fait prendre conscience de qu'est-ce que c'est que cet état d'être, de se sentir de cette manière, ça reste quand même un livre qui est éminemment lumineux et qui nous plonge vraiment dans des pensées intimes avec beaucoup de détachement. On n'est pas dans le truc mièvre, même s'il y a des passages, on sent bien que les émotions, elles sont très présentes, mais elle la raconte vraiment avec une distanciation qui me laisse quoi ? Je me dis, comment peut-on avoir ce talent de mettre à distance comme ça un sujet dans lequel nous nous sentons aussi engagés? Et en plus, c'est une femme qui ne croit en rien derrière la mort, du moins au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui est très connue d'ailleurs parce qu'elle a toujours été dans les médias et puis elle faisait une émission sur la philosophie ou sur les arts. Donc, voilà, c'est une personne qui a une écriture très très belle, très épurée. Et j'adore comme elle évolue dans son livre, j'adore dans les méandres des pensées qu'elle nous plonge avec elle pour des réflexions plus intimes. Et je vais vous lire, si vous voulez bien, un passage, mais alors très court finalement, d'un moment où je trouvais ce moment assez Canal B, on va dire. Hein. C'est pour ça que je vais vous lire, c'est qu'il y a un truc, je pense, tout à chacun qui a peut-être perdu un être cher a pu vivre une scène comme celle-ci. C'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous. Oui, Blaise.
Quand vous dites que, du coup, c'est juste une question, mais quand vous dites que l'autrice, la femme qui parle, qui écrit le livre, quand elle a perdu son père, elle ne croit rien après la mort. Est-ce que tu crois après la mort ?
Oui, mais alors le sujet, ce n'est pas moi, mais non, je suis plutôt d'accord avec Adèle Van Hitt. Je ne crois en rien après la mort.
D'accord.
Maintenant, j'ai fait ma lecture. Donc là, on est dans une situation, c'est l'été. Je vous ai dit que le livre était saisonnier. Hein, ça racontait aussi l'évolution de tout ce qui est en train de se passer durant les différentes saisons. Il faut savoir aussi que l'autrice se retrouve durant la mort de son père enceinte. C'est assez saisissant. Et là, ils sont en fait dans un endroit insolite qui ressemble beaucoup à la personnalité de son père. Ils sont en train de mettre les cendres de papa dans cet endroit, qui est un endroit à haut d'une colline, vraiment en pleine nature. Et là, quand l'urne a été vidée, on a planté des petites fleurs dans les cendres autour du cyprès. Ça mettait un peu de couleur et c'était joli. On est resté un moment autour à ne pas dire grand-chose, puis on est redescendu de la colline et c'était fini. J'aurais aimé qu'on chante, qu'on pleure, qu'on purge et qu'on fasse trop. J'aurais aimé des bougies et beaucoup de musique, des enfants qui dansent et des larmes qui coulent. Une fête comme celle où, il y a quelques années à la maison, lors d'une nuit de danse et d'ivresse pour fêter mon anniversaire, mon père était venu me voir à plusieurs reprises, mimant un solo de guitare avec une bouteille d'alcool pour me demander de mettre Black and the USSR, et je lui avais chaque fois répondu « Oui, juste après cette chanson ». Et le jour s'était levé, et lui qui avait passé la nuit à nous regarder danser, fredonnant sur chaque tube qui passait, et en faisant sauter les bouchons de bouteilles de champagne que je buvais pieds nus en dansant, il avait pris ma guitare, la vraie, et s'était mis à jouer sur les yeux ébahi de mes amis encore éveillés, et il avait enfin joué la chanson tant demandée, chanson que je n'avais pas diffusée, sans que je puisse aujourd'hui m'expliquer pourquoi. C'est, je crois, mon seul regret, avoir empêché mon père de s'éclater sur une chanson de Beatles à mon anniversaire. Je l'aurais bien écouté en boucle à présent, qu'il était réduit à un tas de cendres, mais je ne pouvais ni boire ni fumer, il faisait beaucoup trop chaud pour danser. Alors notre stratégie d'esquive naturelle a pris le dessus et tout le monde est allé dans la piscine et on a parlé d'autre chose. Les jours suivants, je suis retournée chaque jour à la chapelle prendre un peu de fraîcheur et regarder les cendres. Elles n'ont pas bougé. Même le jour où il y a plu sans arrêt, du matin au soir, elles sont restées intactes. Peut-être que dans 10 ans, elles n'auront toujours pas bougé.
Magnifique.
Qu'est-ce que c'est beau.
C'est beau, hein.
C'est très beau et fort. Et
touchant.
Oui, c'est vrai. Et voilà, parfois, quelqu'un, dans une soirée, nous demande cette chanson qu'il a tellement envie d'entendre. Et voilà. Et j'ai trouvé ouais, ce passage assez Canal B.
Ouais.
Partager avec vous.
Ouais. C'est Juliana. Ça.
Donc voilà, les filles, merci beaucoup de votre participation en Nombril de Vénus, cette émission aujourd'hui. On a parlé des livres et on est très heureux. Donc maintenant, nous allons nous adonner à nos activités respectives et je vous donne rendez-vous très bientôt ici à l'antenne de Canal B. Vous revenez. Hein,
oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup de ton invitation, Juliana. À bientôt.
Oui, merci. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Écoutez le nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous,
bye.
Bye.